bonjour, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale, en direct de Paris, il est 18h.
Le journal, en France est facile.
Adrien Delgrange.
Nous sommes le mercredi 2 juillet. Au sommaire de cette édition, le budget des États-Unis est à la une de ce journal. Marqueur de la politique de Donald Trump. Après le Sénat hier, la Chambre des représentants s'empare du sujet aujourd'hui. L'Ukraine est également au sommaire. Le pays est surpris par l'arrêt de certaines livraisons d'armes américaines. La Russie se frotte les mains. Analyse à suivre. Nous serons au Mali au lendemain d'attaques djihadistes contre l'armée malienne dans 7 villes du pays. Nous en savons davantage sur ce qui s'est passé, nous explique dans un instant David Bachet. Et puis enfin, reportage dans ce journal sur le port de Marseille avec les conséquences de la canicule, de ces températures élevées, non pas sur les humains, mais sur les poissons. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. C'est le bébé du président américain, son grand et gros projet de loi, comme il l'a nommé, un ensemble de mesures fourre-tout qui rassemble à la fois des baisses d'impôts, qui boostent le budget de la défense, qui renforcent la surveillance des frontières et qui coupent dans les dépenses fédérales. La Maison-Blanche a pesé de tout son poids pour qu'il passe l'obstacle du Sénat. Hier, c'est désormais chose faite, mais pour qu'il soit validé pour de bon, il faut que la Chambre le vote. Oriane Verdier, bonjour.
Bonjour.
Et ça, c'est encore loin d'être gagné.
Oui, les démocrates rejettent catégoriquement ce texte, mais l'incertitude vient surtout du côté républicain. Donald Trump a appelé ses troupes à s'unir. Il voudrait remporter sa première grande victoire législative de second mandat avant la fête nationale le 4 juillet, dans 2 jours. Si tous les élus démocrates votent contre, il suffirait que 4 républicains votent contre également pour que la loi soit un échec. Du côté des plus conservateurs, on s'inquiète du déficit public qu'implique le texte, une augmentation de la dette de plus de 3 000 milliards de dollars d'ici 2034, selon le bureau budgétaire du Congrès. Et du côté des républicains les plus modérés, on s'oppose aux coupures de budget au sein des programmes Medicaid et SNAP, censé réduire justement le déficit.
Vous parlez là, Oriane, de programmes sociaux, l'un concernant l'assurance santé, l'autre l'aide alimentaire pour les foyers les moins riches. Leur budget est donc réfléchi dans cette loi en même temps que celui de la défense et de la lutte contre l'immigration.
Oui, c'est vraiment une grande loi qui touche de multitudes de sujets. Plusieurs milliers de milliards de dollars seront destinés en premier lieu à la prolongation de crédits d'impôts massif pour les entreprises et les particuliers, des mesures qui avaient été mises en place par Donald Trump lors de son premier mandat et qui arrivaient à leur fin actuellement. Pour les financer, le projet est donc de réduire, vous le disiez, drastiquement le programme public d'assurance santé, la principale aide alimentaire du pays et des incitations fiscales en faveur des énergies renouvelables adoptées sous Joe Biden. Des centaines de milliards de dollars supplémentaires sont également prévu pour la défense, donc, et la lutte contre l'immigration. C'est l'une des pierres angulaires de la politique de Donald Trump.
Et la Chambre des représentants se penche donc sur la question aujourd'hui. Merci beaucoup, Oriane Verdier. Les États-Unis qui, par ailleurs, aident de moins en moins l'Ukraine à combattre l'armée russe. Les États-Unis ont annoncé arrêter de livrer, de donner à l'Ukraine certaines armes. Volodymyr Zelensky s'en inquiète. Cette décision va encourager la Russie à continuer la guerre. D'ailleurs, la Russie se dit satisfaite. Moins il y a d'armes livrées à l'Ukraine, plus proche est la fin de l'opération. Opération militaire spéciale, affirme Dmitri Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine. La décision américaine concernerait notamment le système de défense aérienne Patriot. C'est ce système qui permet de détecter et d'abattre un missile, un drone ou un avion ennemi. Et sans cette arme, pour le général Jean-Paul Paloméros, la population ukrainienne est encore en danger.
Si on prend cet exemple qui est le plus frappant finalement, de la défense antiaérienne, ça met les populations ukrainiennes encore plus à risque qu'elles ne le sont aujourd'hui, parce que ces systèmes américains antimissiles sont les seuls aujourd'hui à pouvoir vraiment intercepter des missiles balistiques avec des performances telles que les Russes les développent. Donc, ça serait dramatique. Est-ce que c'est ça que veut dire le porte-parole américain? Ben, ça va rester à démontrer, mais le risque est important.
Le général Jean-Paul Palomero, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air française, il était l'invité d'RFI Midi. Radio France Internationale, 18h05 à Paris, 16h05 à Bamako, au Mali. Au lendemain d'une importante série d'attaques djihadistes contre l'armée malienne, nous en savons davantage. David Bachet, bonjour.
Bonjour Adrien, bonjour à tous.
Alors pour rappel, hier, 7 attaques ont été menées, coordonnées par le GNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, groupe terroriste lié à Al-Qaïda. 7 attaques dans 7 localités différentes, notamment dans les régions de Kaï et de Ségou. Une action armée inédite, du jamais vu de par son ampleur, sur laquelle d'ailleurs, David, les djihadistes ont diffusé de nouvelles revendications. L'armée malienne a également depuis donné quelques précisions, David. Toutefois, de nombreuses questions restent en suspens.
Oui, le GNIM affirme avoir tué une dizaine de soldats maliens et récupéré quantité d'armes et de véhicules à Niono, image du butin à l'appui. Aucun chiffre en revanche sur leurs pertes, aucune image non plus des soldats maliens tués, comme le GNIM le fait habituellement. C'est que la riposte de l'armée et de l'Africa Corps, les successeurs de Wagner, a été plus efficace qu'à l'habitude. Les échanges de tirs et les opérations de ratissage ont duré plus de recherches, ont duré plusieurs heures. L'armée revendique au moins 80 terroristes neutralisés. Alors le chiffre semble surévalué pour de nombreux observateurs et analystes sécuritaires qui ne contestent pourtant pas le succès de la riposte, du moins à Niono.
Alors David, les images diffusées par l'état-major malien montrent des dizaines de corps.
Oui, et un important arsenal, des armes, des véhicules pris aux djihadistes. Aucun chiffre officiel en revanche sur les victimes civiles ou dans les rangs de l'armée. À Kaï, les dégâts visibles causés par les djihadistes sur des sites civils ou militaires sont très importants et selon le journaliste Wassim Nasr de France 24, le GNIM a pris en otage 3 citoyens indiens et un chinois. Enfin, les djihadistes ont également visé hier les positions de l'armée à Nioro du Sahel, Diboli, Molodo, Sandaré et Gogi, ainsi que des sites industriels de la commune de Bafoulabé. Alors le GNIM assure avoir temporairement pris le contrôle de 3 casernes et de dizaines de points militaires sans détailler. L'armée n'y fait pas spécifiquement référence dans ses communiqués.
David Bachet, pour toutes ces précisions, notons qu'une interdiction pour la population a été instaurée donc de sortir la nuit. Autrement dit, un couvre-feu nocturne instauré notamment dans la région de Kaï, la région de Ségou, également frappée par des attaques et déjà sous couvre-feu nocturne. Dans l'actualité européenne, des Européens qui ont chaud, très chaud après les habitants du sud de l'Europe. Ce sont les habitants du nord de l'Europe qui transpirent, qui suent de chaleur jusqu'à 40 degrés prévus aujourd'hui en Allemagne. Alors la canicule concerne certes les humains mais aussi la nature. Exemple, en mer Méditerranée, l'eau a atteint 26 degrés hier. Reportage à Marseille, signé Elisa Amourette.
7h30 et déjà 28 degrés dans l'air. Sur le vieux port de Marseille, Daniel prépare son stand pour vendre la pêche du jour.
Alors aujourd'hui, moi j'ai de la rascasse, du chapon, j'ai 5 bacs de poisson. C'est le minimum. Si ça avait un peu plus, ça serait mieux.
Ce marin-pêcheur pêche à la palangre, une technique qui consiste à laisser traîner des hameçons sur une ligne. Mais avec une eau à 26 degrés, les poissons se font plus rares.
Le poisson est un peu comme nous, on se met à l'abri, il n'a pas de clim, donc il se met dans un trou, à l'ombre. Et il ne bouge plus. Voilà. Donc, le poisson est plus dur à attraper.
Alors, Daniel et son fils s'adaptent.
On va plus loin que d'habitude. Plus de gasoil, plus de travail, plus fatigant. Habituellement, on pêche dans des profondeurs de 20 à 40 mètres. On est obligé de descendre à 200, 300, voire 400 mètres.
Quelques mètres plus loin, Michel s'empresse de débarquer son poisson pêché au filet près du château d'If.
Bon, le poisson, il chauffe après. Il faut vite le vendre, il faut mettre un peu du froid. Là, il est vivant, ça va, mais quand il est mort, il met du froid et vite le vendre.
Pour le moment, sa pêche n'a pas diminué.
L'eau jusqu'à 24, 25, ça va, mais après, si l'eau va commencer à monter à 28, c'est pas très bon pour les fonds.
La mer Méditerranée connaît des vagues de chaleur répétées depuis 2023 et selon les prévisions Météo France des prochains jours, la mer n'est pas prête de refroidir. Elisa Amourette, Marseille RFI.
Marseille et Paris, oui, il est 18h10.